Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
François Bosflux, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons donc après un premier entretien que nous avons eu. Dans ce premier entretien, nous nous sommes plus attardés à la fois à cette intelligence de l'image, à comment regarder l'image, à ce que l'image est susceptible de nous apporter dans la compréhension à la fois du monde et à la fois de Dieu. Et donc, nous allons dans ce second entretien plus rentrer, disons, dans ce livre central, magistral de vous, donc Dieu et ses images, qui vient d'être republié chez Bayard. Je rappelle que vous êtes dominicain, que vous êtes spécialiste de l'histoire des images et donc l'auteur de ce Dieu et ses images. Je rappelle aussi pour nos éditeurs que vous venez de faire paraître un livre d'entretien, La pensée des images, donc entretien avec Bérénice Levet, qui permet d'expliquer un peu plus ce qu'il en est. Donc si nous entrons maintenant, disons, dans la texture historique de votre entreprise, à la fois synthétique et à la fois étendue sur les 1800 ans, enfin 2000 ans, mais 1800 ans d'images, de représentations chrétiennes, je voudrais dans un premier temps, effort ô combien périlleux, difficile et barbare presque, que vous nous indiquiez rapidement quelles sont les 6 périodes, parce que vous indiquez dans votre livre qu'il y a 6 périodes donc de la représentation de Dieu, 6 périodes que vous distinguez bien. Ça permettra de remettre assez rapidement les choses en place pour nos auditeurs.
Oui, alors je peux essayer. Voilà. Peut-être que je vais y parvenir. J'ai rarement l'occasion d'être interrogé comme un examen sur les 6 périodes que j'ai moi-même distinguées.
Voilà. Non, parce que comme vous le faites de façon synthétique, oui, page 441 de votre livre de ces images, c'est juste pour donner envie aux autres de rentrer dans des travaux plus fournis,
détaillés. Je crois qu'on peut distinguer effectivement 6 périodes dans l'histoire iconique de l'éternel dans l'art, si vous voulez. La première, c'est une période d'abstinence. Le premier christianisme n'a ni les moyens, ni la préoccupation de fabriquer des images de son Dieu. Bon, tout simplement parce qu'il est dans un statut précaire de religion non admise, soupçonnée de complot contre la citoyenneté, sinon contre l'État. Bon, tant qu'il a la période des persécutions dure, si vous voulez, le problème ne se pose tout simplement pas. Et en plus de ça, le christianisme se dégage quand même lentement du judaïsme, qui interdit strictement, du fait du deuxième commandement du décalogue, de représenter Dieu, et en particulier de faire des images cultuelles. Bon, pas d'images. Alors ensuite, progressivement,
Ça dure 2 siècles.
Ça dure au moins 2 siècles, bon, jusqu'au milieu du 3e siècle. Ensuite, du milieu du 3e siècle au milieu du 8e siècle, on assiste à la lente genèse d'une image de Dieu en Christ. Bon, c'est-à-dire que petit à petit, des images du Christ apparaissent qui le désignent comme le Dieu incarné, le Verbe de Dieu incarné, le Logos de Dieu fait homme. Bon, alors, ça illustre au fond le dogme de l'incarnation. Et l'art de ces premiers siècles, qui est l'art paléochrétien des catacombes, des sarcophages, des mosaïques, etc., s'aventure à peu près pas du côté ni de Dieu le Père, ni de la Trinité.
Bon. Oui, considérant effectivement que l'un des trois s'est incarné et pas les autres.
Et que tout
donc
est
la visibilité, la visibilité n'est que celle du Christ.
Voilà, exactement. Il y a un adage que j'aime bien citer de saint Irénée qui dit « Le visible du Père, c'est le Fils. L'invisible du Fils, c'est le Père. » Alors, il faut y méditer pour savoir exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire au fond que tout ce que Dieu avait à montrer, mais il l'a montré en Jésus. Tout ce qu'il avait à dire, il l'a dit en Jésus. C'est pas la peine d'aller chercher en coulisses, je ne sais quoi. Vous comprenez ? Bon. Alors ça, c'est 2e période. 3e, 8e. Ensuite, on assiste aussi bien en Occident qu'en Orient, à ce que l'on pourrait appeler une période prodigieusement exploratoire, où au fond, après la fin de l'Antiquité, la période des barbares, où la culture se réfugie plutôt dans les scriptoria monastiques, où il y a pas mal d'inventivité, pas beaucoup de contrôle, pas non plus le problème, si vous voulez, des masses, c'est pas une iconographie de masse, c'est des essais exploratoires faits dans les scriptoria. Imaginez des moines, si vous voulez, savantissimes, qui lisent pas mal de théologie, qui célèbrent l'office liturgique 7 fois par jour. Ils sont pétris d'écriture et ils se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même représenter la Trinité? Alors, voilà, ils rôdent. Bon, et ça donne des choses absolument prodigieuses, sans lendemain aucun. C'est-à-dire, bon, voilà, de toutes sortes de brouillons, on pourrait dire, de représentations de Dieu le Père, de la Trinité, de Dieu le Saint-Esprit. Bon, 9e, 11e siècle. Bon.
Et, donc ça, plutôt le Dieu en majesté, c'est ça?
Alors, ne subsiste de Dieu dans cette période-là, au fond, que la majestas domini, comme on dit en latin, c'est-à-dire la majesté du Seigneur, Dieu christique, hein, Dieu en Christ, assis dans une mandorle, flanqué des symboles des quatre vivants de la vision d'Ézéchiel, bon, Dieu en majesté. Et puis, c'est toujours un Dieu christique. Bon, on n'a pas été tellement au-delà. Sauf qu'au XIIe siècle, à la fin de cette période exploratoire, il y a une sorte de prodigieuse... il y a un miracle. On peut parler du miracle du XIIe siècle qui voit naître, les unes après les autres, les cinq grandes familles de représentation de la Trinité qu'on peut énoncer. Alors là, je crois que je les sais par cœur. Le trône de grâce avec Dieu le Père qui tient le crucifix, avec le crucifié sur la croix. La paternité avec Dieu le Père qui tient l'Emmanuel, son Logos, sur ses genoux, dans son sein. La Trinité triandrique avec les trois personnes assises côte à côte. La Trinité du psautier avec Père et Fils assis l'un à côté de l'autre avec la colombe du Saint-Esprit entre eux deux. Et enfin, l'immense famille des tricéphales et des trifrons, c'est-à-dire une sorte de conciliation peu gracieuse entre le Dieu unique et les trois personnes de la Trinité, par un subterfuge plastique, c'est qu'on représente un homme avec un tronc unique, et puis, il a trois têtes, ou bien il a une tête à trois visages. Bon, comme ça, tout le monde est content, un seul Dieu, mais trois personnes. Bon.
Alors, justement, pour s'attarder un petit peu sur ce miracle du XIIe siècle, qu'est-ce qui, théologiquement, permet de rendre visible, de déployer cette Trinité, donc de faire en sorte que les deux de la Trinité qui n'ont pas été rendus visibles, qui ne sont pas visibles, qui sont dans la partie invisible dont vous parliez, ont été rendus visibles.
À peu près rien. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un comme moi qui n'oublie pas d'être théologien, je suis devenu historien de l'art par passion et historien des religions à l'université. Mais en réalité, ma première formation la plus solide, c'est celle de théologien. Je reste théologien et comme théologien, je pense que rien de vraiment légitime, si vous voulez, ne devait laisser de feu vert à cette représentation du Père qui ne s'est pas incarné, de l'Esprit Saint non plus. Bon. Et qu'en fait, c'est un peu, comment dire, une iconographie de contrebande, pour tout dire. Bon. Alors, c'est à peine si l'on ose dire ça, si vous voulez, parce qu'on a l'air de frapper, d'interdit, de condamnation, une immense aventure artistique, mais quand même, comme théologien, je continue de penser que c'est un peu dommage qu'on se soit engagé dans cette direction, même si il y a tant et tant d'œuvres tellement touchantes que j'ai fini par contracter pour elles une amitié très vive. Oui.
Donc vous dire qu'il y a là une audace coupable, mais une sympathie, une sympathie iconographique, enfin que vous ressentez.
Parce que ce sont des images dans lesquelles des générations de chrétiens ont prié et elles sont, je sais pas comment dire, elles sont très respectables. En plus de ça, on les a justifiés par des passages d'écriture, vous comprenez? Par exemple, la Trinité triandrique, avec les trois personnes représentées comme des triplés, assis sur un banc, bon, et avec une banderole, comme chez Hildegard de Noche, le Hortus Deliciarum, bon, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, bon, au fond, illustrant le fait que, dans la Bible, en Genèse 1, 26, on dirait que ce sont les trois personnes qui se consultent et s'encouragent mutuellement pour la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et on les voit. Bon. Donc, on a pu... Alors, je vous disais, c'est une imagerie de contrebande. Oui, en même temps, chacune de ces représentations a été, d'une certaine manière, adossée à un verset d'Écriture. Là, Genèse 1, 26 pour la Trinité triandrique, pour la paternité, c'est-à-dire Dieu Christ sur les genoux du Père. Bien entendu, on s'est réclamé du prologue de Jean. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père ou sur les genoux du Père, lui nous l'a révélé. Pof, vous comprenez, un verset, Jean 1, 18, qui vient à point nommé pour Jésus. Bon, la Trinité du psautier, je m'arrêterai là à cet exemple, eh bien, elle tire son nom d'un verset du psaume 109 qui dit ceci: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, tes ennemis, j'en ferai les marches de ton trône. » Bon, alors on voit le Seigneur, un premier Seigneur, qui est assis à côté d'un second Seigneur qui a obéi à l'invitation de s'asseoir à côté, avec une colonne entre les deux. Bon, à chaque fois, on peut toujours trouver, si vous voulez, un verset d'Écriture qui vient au secours, au fond, une représentation qui, fondamentalement et théologiquement, au fond, n'aurait pu ne pas exister. Même, il aurait mieux valu qu'elle n'existe à point. Mais elle a existé. Et du coup, on a trouvé généralement, par exemple, pour Dieu le Père, une justification du côté de la vision du livre de Daniel qui parle d'un fils d'homme qui s'achemine vers l'ancien des jours à la barbe et à la chevelure blanche. Bon, alors Tout le monde, vous comprenez, tout le monde s'est saisi de ce verset, Daniel 7, 9, pour justifier potentiellement et à l'avenir toutes les représentations de Dieu le Père en vieillard. Vous comprenez ?
Alors, cinquième période, donc 14e, 15e siècle, qui semble être plutôt du côté de la compassion.
Alors, oui, c'est le résultat, mais la période, si vous voulez, que j'aime bien regrouper, c'est 13e, 15e, qui est une période de formidable diffusion de toutes ces familles de la Trinité, avec tous les phénomènes d'appropriation dont nous parlions lors de notre première rencontre. C'est-à-dire, au fond, chaque période, chaque culture, chaque région, y va du sien, ajoute quelque chose. Alors, c'est très touchant. Il y a des trinités qui sont plutôt anglaises et d'autres qui sont espagnoles. On ne peut pas les confondre avec un peu d'habitude, vous voyez. Bon, les albâtres de Nottingham, ça ne ressemble pas, vous comprenez, aux fresques italiennes non plus. Bon, alors ça, c'est très attachant parce que ça montre que, au fond, le peuple chrétien y a mis toute sa créativité, toute son ingéniosité, et ça débouche de nouveau sur un second miracle, le second grand miracle de cette histoire qui est lors de la quatrième période, c'est le tournant des années 1400, où l'on voit alors avec quelle audace l'Occident va oser prêter à Dieu des sentiments de compassion qui vont faire que le Christ descendu de croix, d'une certaine manière, est pris sur les genoux du Père, exactement comme s'il était sur les genoux de sa mère, la Pietà. On a imaginé ce que Mahl appelait une Pietà du Père. Bon, c'est tout à fait touchant, c'est absolument inconnu de l'art d'Orient, qui a toujours refusé ses représentations. Et ça montre que la compassion devient un des maîtres mots de la religion chrétienne. Compatir, être capable de souffrir avec, de souffrir pour, de ressentir la souffrance de l'autre. Bon, c'est ce que tous les humains sont appelés à accueillir en eux-mêmes, à l'image de Dieu lui-même qui a su accueillir la souffrance de son fils et, dans la souffrance de son fils, la souffrance des hommes. Bon. Donc, il y a une espèce de jeu, si vous voulez, de miroir dont la compassion offre, pour ainsi dire, la plateforme anthropologique est sensible. C'est très touchant.
Mais
ce qui est
à la fois presque hérétique, en fait, d'imaginer,
mais oui,
d'imaginer que le Dieu tout-puissant, qui est impassible, voilà, héritier du moteur universel premier d'Aristote, puisse d'une façon ou d'une autre souffrir.
Exactement.
Et souffrir pour les hommes,
c'est indéfendable en bonne rigueur théologienne, dans la mesure où les théologiens chrétiens ont toujours fait leur, une des catégories maîtresses de la pensée du divin en Grèce ancienne, ataraxie ou impassibilité, apatheia, c'est-à-dire Dieu ne souffre pas, il est au-delà, vous comprenez. Bon, eh bien non, la peinture a osé suggérer que si, il était atteint, il était rejoint, il était inquiet. Bon, alors, rares sont les peintures qui le montrent vraiment souffrant. Bon, j'étudie ça pas mal dans un chapitre spécial de ce livre, « Dieu et ses images ». Mais quand même, c'est suggéré, si vous voulez, c'est que Dieu ne reste pas insensible dans son ciel pendant que son fils souffre ou que les hommes souffrent. Non, c'est un Dieu proche, c'est un Dieu qui est capable, qui est rejoint par la souffrance. On est, vous voyez, dans la fin de la quatrième période. À partir de ce moment-là, je termine avec les six périodes quand même.
Allez-y.
Il y a une période de nouveau de diffusion calme et extrêmement puissante de ces nouvelles inventions des années 1400 qui s'étend jusqu'aux années 1680. Bon, et c'est l'art de la contre-réforme qui est prodigieusement créatif. C'est les grands génies du genre Léonard de Vinci, Michel-Ange et compagnie. C'est ensuite le siècle d'or espagnol. C'est le grand siècle français. Bon, mais c'est des réalisations considérables. Et vous voyez, continuer d'être vivant, tous les types iconographiques inventés soit au XIIe, soit autour des années 1400. Il n'existe pas de grand peintre qui ne se saisisse un jour ou l'autre de ses sujets et qui ne peigne Dieu à sa façon, vous voyez. Bon. Et la dernière période, justement, s'amorce à partir de la fin du XVIIe siècle et va jusqu'à nos jours. C'est une période de lente essoufflement de cette iconographie-là. On dirait que petit à petit, le sang sortir des veines de l'art chrétien, vous voyez. Et le XVIIIe siècle est un siècle qui, du point de vue qui m'a intéressé, qui m'occupe, est assez décevant, à part quelques personnalités comme Giaquinto ou les Tiepolo, des peintres comme ça. Petit à petit, on voit bien que l'iconographie de la Trinité est tout simplement désertée. Bon. Et au XIXe, et encore un peu au début du XXe, on essaye de réchauffer tout cela, mais ça sent le réchauffer, comme on dit dans les cuisines. Vous voyez, c'est plus vivant. La force s'en est allée. Bon. Et au XXe siècle, je crois qu'on peut parler purement simplement d'une éclipse quasi totale de la figure de Dieu dans l'art, et a fortiori de la figure de Dieu le Père et de la Trinité. Bon, la seule exception étant que la figure du Christ, et en particulier du Christ en croix, continue d'être une obsession majeure dans la plupart des avant-gardes occidentales. Et là-dessus, je voudrais réfléchir. Et si Dieu me prête vie, je voudrais un jour réussir à faire un livre de synthèse sur, vous voyez, l'histoire du crucifix.
Alors, on a vu, parce que dans ce livre-là, donc Dieu et ses images, d'une part, et puis même dans la pensée des images, il y a à la fois les réductions maîtrisées et pédagogiques qui est la vôtre, et en même temps des préférences marquées. Et vous dites donc que on peut scinder en deux, enfin pour le dire un peu brutalement, scinder en deux cette iconographie-là et indiquer, c'est ce que vous dites, qu'il y a une période antérieure à la Renaissance et une période postérieure à la Renaissance. Vous dites qu'après, avec la Renaissance et après, on est souvent dans quelque chose de plus égoïste, de plus virtuose, de plus mise en scène. Et vous critiquez en particulier, critiquez au sens où vous mettez bien en évidence qu'il y a chez Rubens une forme de virtuosité qui s'instaure au détriment sans doute du sens, et chez Michel-Ange, une jupitérisation de Dieu. Voilà. Et donc, pourquoi cette préférence d'avant la Renaissance d'une part, et qu'est-ce qui s'est perdu avec ces mises en scène, ces virtuosités voilà.
Alors d'abord, si vous permettez, je voudrais suggérer que ce sont des préférences globales qui n'empêchent pas des coups de cœur pour Rouault, pour Manessier, pour Arcabas, qui est un peintre vivant sur lequel j'ai écrit 5 livres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ces lois générales n'empêchent pas des miracles locaux. Bon, cela dit, effectivement, je maintiens que quelque chose d'un équilibre entre la réserve respectueuse, intuitive envers la figuration du divin et l'implication personnelle, si vous voulez, d'une part. Et d'autre part, au fond, ce qu'on pourrait appeler une sorte de chute dans une théâtralité malgré tout un peu vulgaire, un peu commune. Cet équilibre-là, qui se maintient bien ou qui jugule la théâtralité, jusque dans les années, alors je vais être très précis parce que voilà, je vais vous raconter une expérience vers les années 1460, vous voyez, eh bien après débouche sur un art qui au fond est moins crédible, moins convaincant parce qu'il est plus extérieur, plus extraverti, un peu plus théâtral. On pourrait presque dire de façon anachronique que c'est un art qui fait un peu de cinéma. Bon. Et ça me gêne, j'ose le dire, si vous voulez, pas malgré toute l'estime, toute l'admiration que j'ai, je sais pas moi, pour Raphaël, mettons, ou pour Michel-Ange, ou pour Léonard de Vinci, ça me gêne cette espèce de sentiment qu'il peint les personnages de l'histoire sainte comme si chacun était incapable d'oublier qu'il est en représentation. Ils donnent tous l'impression qu'ils sont en représentation. Bon. Et vous n'avez pas cela avant. Vous prenez par exemple la peinture flamande ou encore la peinture française. Vous prenez la peinture de Jean Fouquet m'intéresse beaucoup parce que Jean Fouquet est allé en Italie, comme ils allaient tous en Italie, et il adorait le théâtre. Bon. Et en même temps, les gens chez Fouquet sont profondément engagés dans ce qu'ils font. Et on a le sentiment qu'ils sont totalement sincères. Pareil dans la peinture flamande. Ils sont totalement en eux-mêmes et sincères. J'en dirais pas autant chez les personnages de la peinture religieuse après ou à une certaine date que je situe vers 1460-1480.
Mais est-ce que c'est pas dû, et on va peut-être en venir au Concile de Trente, à une forme de reprise en main par le pouvoir clérical, par la théologie écrite, par rapport à nos divisions, de ce que l'image dit ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet qui est lié effectivement à ce nécessaire pouvoir de l'autorité ecclésiastique qui, à partir du Concile de Trente, pour mettre effectivement une date, donc 1568, indique effectivement que à la fois l'image est légitime et qu'en même temps, il y a un droit de regard des autorités ecclésiastiques et un jugement qui laisse à supposer que ceci est catholique et ceci ne l'est pas. Est-ce qu'à votre avis, la fracture passe par là, plus ou moins, ou pas ?
Oui, elle passe par là. Je ne parlais pas de fracture parce que ce n'est pas aussi net qu'une fracture. C'est une torsion. Bon, c'est une dérive. Je voudrais quelque chose d'une image plus douce, oui, si vous permettez. Bon. Et cette dérive que vous citez, qui est la part de cette dérive qui est attribuable, au fond, à une sorte de représentation autoritaire d'un processus fort complexe que tout à coup Rome constate ne pas maîtriser. Bon, je pense que vous avez raison, mais cet aspect-là, si vous voulez, ne commence de jouer qu'avec le Concile de Trente. Et du fait, surtout, de la réforme qui met, au fond, à Rome, l'épée dans les reins, en dénonçant un certain nombre d'abus, d'images apocryphes, d'images subreptices, d'images injustifiables, et en disant que, de toute façon, les images, les reliques, les indulgences, tout ça, c'est du frauduleux qui nuit à l'unique médiation christique. Bon. Et par conséquent, du balai. Bon, alors Rome va se trouver engagée dans une opération qui consiste à la fois à réaffirmer les droits de l'image à être exposée dans les églises et à être vénérée par les fidèles, et en même temps à essayer de faire en sorte que les abus dénoncés par les réformés ne se reproduisent plus. D'où la publication d'un certain nombre de manuels pour les artistes. J'en ai publié un de Molanus qui m'a demandé 9 ans de traduction d'un texte de 440 pages latines. Vous voyez, et c'est très intéressant de voir comment on donne des conseils aux artistes. Mais avant il y a quelque chose d'autre à mon avis, qui est plus complexe, et dont je ne suis pas sûr d'ailleurs de savoir dire la cause, mais qui est lié à la fois à une sorte de retour sur soi de l'esprit occidental, et une sorte d'introspection s'introduit dans les images, qui est en même temps lié à une formidable exaltation de l'humain, qui est lié à la diffusion du néoplatonisme avec Laurent le Magnifique, Pic de la Mirandole, qui sont les penseurs qui vont beaucoup inspirer, si vous voulez, la peinture italienne de cette époque-là. Pourquoi le dieu de Michel-Ange a l'air aussi jupitérien? Mais parce qu'on projette sur lui une espèce de confiance en l'humain qui n'avait pas existé depuis longtemps. On sort de siècles du Moyen-Âge, dont on veut justement s'écarter, parce que c'était le contemptus mundi, le mépris du monde, l'ascèse, la macération et tout ça. On veut en sortir, et on affirme la beauté, la grandeur de l'homme, on invente le nombre d'or, etc. Tout ça, alors, ça fait une sorte de faisceau plus ou moins explicatif du phénomène que j'ai décrit, qui est bien antérieur au siècle du Concile de Trente. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce qui s'est passé dans les 80 années qui précèdent, si vous voulez, la clôture du Concile de Trente.
Donc il y a deux choses, vous dites, qui effectivement expliquent cette coupure, ou permettraient d'expliquer cette coupure. Une affirmation de l'homme, Pic de Ramiran, de la dignité intrinsèque de l'homme, qui se ferait, si je vous entends bien, un peu au détriment de la sympathie, de l'empathie, du lien direct avec les images de Dieu, et avec Dieu d'une part. Et puis deuxièmement, c'est pour ça que vous avez raison de distinguer les périodes, avec quelque chose qui laisse à supposer que l'ennemi de l'intérieur, le protestant, qui effectivement est dedans et dehors à la fois, est dedans au début et finalement finira par être dehors, lui suppose qu'il faut reprendre un peu en main tout ça, à la fois se justifier et à la fois affirmer des images par réaction.
Oui, exactement. Donc on va défendre une certaine iconographie.
Donc ça, les deux en même temps.
Oui, il y a les deux en même temps.
Enfin, où, des périodes un peu...
Où successivement, voilà, mais successivement, avec peu d'écart dans le temps. Et du coup, alors, dans le premier temps, il y a quelque chose qui joue au détriment, au fond, plutôt de la sincérité modeste par rapport à Dieu et de l'exaltation de Dieu pour lui-même. Vous voyez, parce que cette introspection finit par faire en sorte qu'au fond, la focale du peintre, si on le compare à un photographe, au fond se concentre. D'ailleurs, c'est très amusant. La naissance du portrait, vous voyez, coïncide avec tout cela, de l'autoportrait et aussi le phénomène dans l'art de la miniature du gros plan. C'est très amusant. On voit généralement les miniatures avait de l'espace, du cadre. Bon, on voit apparaître, vers les années que je lis, 1460-1480, en particulier chez les élèves de Jean Fouquet, comme Jean Bourdichon, des Pentecôtes où il y a un gros plan sur la face de la Vierge. Bon, mais ça vient faire quoi, ce gros plan? Ça vient exalter les possibilités de l'humain en tant que tel, ou de l'humain irradié par la présence de Dieu. Mais Dieu, d'une certaine manière, à ce compte-là, disparaît de l'image. Et vous avez le prolongement de cela dans l'art baroque, qui représente Dieu très souvent, mais toujours de façon extrêmement éthérée, vaporeuse. Il a été, au fond, chassé de l'image, ou en tout cas du centre de l'image, par l'exaltation des saints en extase, des souverains dans leur rôle politique, etc. Bon. Et au fond, je dis, ça joue au détriment, un, de la sincérité religieuse, deux, de la place centrale de Dieu dans l'imagerie. Voilà.
Oui, ça veut dire qu'on serait passé de la majesté de Dieu à la majesté de l'homme.
Un peu, exactement. Voilà. Exactement.
Et que Dieu, Dieu créant l'homme, finalement, c'est l'homme qui... équivalent, je ne sais pas, mais finalement peut se passer de Dieu.
On ne le représente pas se passant de Dieu. On le représente
Dieu en
comme
en arrière-fond,
transfiguré par Dieu, Mais une fois que Dieu a transfiguré l'homme, c'est-à-dire on a un peu moins besoin de voir Dieu pour lui-même. Mmh. Et c'est assez curieux. C'est une sorte, c'est... Alors, Dieu reste présent dans l'image, mais il a moins de poids. Vous voyez, il est beaucoup moins convaincant. Lui-même.
Oui, donc vous dites qu'on est plus, à partir de ce moment-là, donc vous dites entre Fouquet et Raphaël, quoi, c'est ça ?
Oui.
Vous dites qu'on est plus, à partir de ce moment-là, dans la théâtralisation, dans la représentation qui se représente elle-même, oui. Dans quelque chose d'un peu artificiel, voilà, quelque chose d'un peu...
D'un peu clos, c'est un monde humain qui se referme un petit peu sur lui-même, oui. Malgré tout. L'ouverture envers le divin, ou la place mais prépondérante du divin dans l'espace de l'image, c'est fini. Mmh. Bon, ça me frappe d'ailleurs, parce qu'on invente à cette époque-là aussi, j'ai un paragraphe là-dessus dans mon bouquin, une figure de Dieu planant. C'est-à-dire qu'on crée un espace pictural qui fait que désormais Dieu est une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'aérostat ou de... Vous voyez bon, il a perdu du poids. On l'a intégré dans un espace dont il n'est plus le centre. Mmh, mmh. Il est une partie du monde de la peinture. Mmh, mmh. Évidemment, c'est plus la maiestas domini qui remplit tout l'espace de l'image, tout l'espace de l'abside. Mmh. Bon, vous comparez par exemple une coupole baroque et puis une abside romane ou un tympan gothique et vous chiffrez la proportion en surface que Dieu y occupe. Vous aurez la réponse.
Mmh. Alors justement, je voudrais qu'on termine notre second entretien par un exercice pratique. C'est-à-dire, bon, nous parlons des images sans s'arrêter sur aucune d'entre elles. Dans les 10 images que vous préférez, il me semble qu'il y a effectivement ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire la Majesta Domini, donc, qui date de 1125. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut, donc, je renvoie nos auditeurs, pour ceux qui auront la bonne idée d'acheter votre livre, de le feuilleter, de le lire, de s'en nourrir, c'est l'œuvre d'une vie, à la page donc 138 de votre livre « Dieu et ses images », donc avec cette représentation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pourquoi est-ce qu'elle figure pour vous dans le top 10, comme on dit en bon français ?
Le top 10, oui. Mais alors ça, c'est une Majestas Domini qui est catalane, qui se trouve dans une église qui s'appelle Saint-Clément de Tahul, et qui représente un Dieu profondément humain, christique, c'est le Christ en fait, c'est Dieu en Christ, si vous voulez, Dieu dans sa gloire, ayant la visibilité du Christ, qui est affirmatif, viril, bon, pas hystérique. Vous comprenez, j'emploie exprès des mots qui sont chargés de dire en quoi moi personnellement je suis rejoint par cette figure de Dieu qui a une dignité, une bonté, un art de la communication, une bienveillance dont on souhaiterait, si vous voulez, que tous les portraits politiques qui apparaissent dans les magazines soient lestés. Non mais c'est à cet endroit, si vous voulez, que nous sommes rejoints. C'est-à-dire, comment sont les portraits des vedettes, des stars, des politiques, des hommes qu'on nous montre ou des papes ? Par rapport à cette figure. Je dis que cette figure a une qualité de communication et d'humanité qui me paraît achevée, c'est tout, et ça me touche à cet égard. Bon, et en plus de ça, elle dit en peu de lignes, vous voyez, elle dit en peu de lignes l'essentiel de ce que croit la famille chrétienne depuis 20 siècles.
Alors, donc, il y a deux choses. Hein. Ce que vous dites aussi, donc peut-être qu'on peut terminer par là, que peut-être votre métier, donc celui qui lit, qui cherche à faire comprendre, pourrait se limiter à la seule description des images. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons ? On voit effectivement un Christ qui a dans la main gauche donc, les évangiles, j'imagine,
oui.
Et dans la main droite, qui a le signe de celui qui enseigne.
Oui, qui est un signe de prise de parole. Voilà. Il est le logos, il est la parole de Dieu. Bon, et c'est un signe qui a aussi quelque chose de bienveillant. Il ne se prépare pas à donner un coup de poing, ni à tirer des flèches, vous voyez. Bon. Donc, c'est un signe de bienveillance et de protection aussi. Et le tout est encadré d'une mandorle à l'intérieur de laquelle il siège d'une manière qui est à la fois très digne, et on peut même dire hiératique, et assez souple et, comment dire, j'ose pas dire, mais décontracté. C'est un Dieu qui ne fait pas tendu. Vous voyez, bon. Et la contemplation d'une telle image a quelque chose d'une communication de paix. C'est tout, je pense qu'on peut aller jusque-là. Et effectivement, peut-être que mon métier peut être conçu pour l'essentiel comme mais des descriptions d'images bien choisies avec des mots eux-mêmes bien choisis.
Très bien, écoutez, François Bosfug, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour notre entretien précédent. Donc, je renvoie nos auditeurs à ce travail hallucinant, je crois qu'on peut dire ça comme ça, hallucinant à la fois de maîtrise, d'étendue et de précision. Qui est ce livre, donc Dieu et ses images, une histoire de l'éternel, dans l'art que vous venez de refaire paraître donc chez Bayard, accompagné, je le reprécise, donc de ce petit livre d'entretien avec Bérénice Levet, La pensée des images, qui permet d'accompagner, donc pensée des images sans images, parce que le livre n'a pas d'image, mais qui permet d'accompagner effectivement ce livre-là. Et j'espère que ce deuxième entretien a permis à tous nos auditeurs de mieux saisir rapidement, un peu de façon barbare, c'est-à-dire avec beaucoup d'approximation, le détail et l'étendue de ce que vous faites et de ce qui est inscrit donc dans ce livre, Dieu et ses images. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous, merci pour toutes vos questions qui étaient comme autant de cadeaux.
Merci.